dans une chanson ou dans un morceau instrumental, si c'est bien écrit, ça dit quelque chose. Donc, on va choisir un décor, justement, à mettre derrière pour
Ouais.
que ce qui veut être dit soit dit dans le bon sens et soit hyper bien compris.
Bonjour. Le podcast des Petits Papiers, c'est une rencontre avec un invité et une conversation pour découvrir son travail et qui il est à travers des mots choisis pour lui. Il fait partie de ceux dont vous connaissez le travail, sans le savoir peut-être, puisqu'il réalise et enregistre des albums depuis plus de 30 ans. La liste des artistes avec qui il a travaillé est longue et impressionnante. On peut citer Alain Souchon, Manu Chao, Faith, Chili Gonzalez, Philippe Catherine, La Rumeur, Jeanne Hadid, Claude Nougaro, Jane Birkin, Eddie Mitchell, Jean-Louis Aubert. Bah, j'arrête là parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une carrière qui a démarré sur les chapeaux de roue, presque à l'inverse d'un chemin traditionnel où on commence par le bas et puis on y va par étapes. Lui, il a tout de suite travaillé avec des artistes importants comme Alain Souchon. On va revenir sur ce parcours dans un instant. Et puis, on va dire aussi qu'en 2025, on va beaucoup en parler, il est passé de l'autre côté des sillons avec un premier album sous le nom de Drift. Bonjour Renaud Létang.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci à vous de m'inviter.
Avec plaisir. Alors, c'est vrai que vous avez commencé votre carrière très jeune et vous avez tout de suite travaillé avec des artistes importants. Je pense que le premier gros projet, ça a été Alain Souchon.
Oui, tout à fait. J'ai eu beaucoup de chance. Le premier album où j'ai eu la responsabilité d'un enregistrement et d'un mixage, c'était pour l'album d'Alain qui s'appelle Full Sentimental.
Ouais.
Et j'étais tout jeune, bon, j'avais 22 ans ou 23 ans, et j'avais déjà fait 3 ans et demi d'assistanat dans un énorme studio. Donc j'étais jeune, mais j'avais quand même de l'expérience à un niveau assez élevé, vu que le studio dans lequel je travaillais était à l'époque un peu le best studio in the world,
ouais, du
moment.
Studio Guillaume Tell.
C'est ça, qui s'appelle toujours d'ailleurs. Il est toujours, mais à l'époque, c'était vraiment le studio phare de l'enregistrement dans le monde. Du coup, j'ai eu la chance de participer à plein d'énormes projets internationaux. Et du coup, ça m'a quand même mis dans une perspective hyper pro et tout de suite élevée artistiquement.
Ouais.
Et du coup, ça m'a aidé pour pouvoir évidemment faire ce travail aussi jeune avec Alain.
Vous travaillez au studio Guillaume Tell, pas avec n'importe qui, hein, puisque je pense que pendant près d'un an, vous travaillez avec quelqu'un qui s'appelle Phil Ramone.
Oui.
Présentez-nous qui est Phil Ramone pour les auditeurs, auditrices qui ne sauraient pas.
Phil Ramone, c'est un réalisateur. Bon, il faut peut-être préciser un peu le métier de réalisateur. Ça, en anglais, ça se dit producer. Du coup, il y a beaucoup d'amalgame entre les deux. En France, le producteur, on prend ça pour le producteur. Donc c'est
celui qui met l'argent.
C'est ça, la personne qui produit financièrement. Donc lui, c'est un réalisateur artistique américain, très connu, qui a commencé comme ingénieur du son, qui était l'assistant de Bruce Whedon, qui était l'ingénieur du son et le mixeur de Michael Jackson, qui travaillait beaucoup avec Quincy Jones. Et après, bon, c'est quelqu'un qui a fait énormément de choses, je sais pas, Shakira, Billy Joel. C'est un très, très grand producteur américain. Et ouais, j'ai eu la chance de travailler avec lui sur la première fois sur un artiste italien qui s'appelle Fabio Concato, qui est quelqu'un d'assez respecté en Italie, une personne qui artistiquement a toujours gardé un cap et c'est quelqu'un de toujours très très apprécié. Donc j'ai participé avec Phil Ramone à l'élaboration de tout cet album et après j'en ai fait d'autres avec lui parce qu'il aimait bien travailler à Paris et tout ça. Et donc je me suis retrouvé un peu à être assistant du studio, mais aussi assistant
de Phil Ramone.
De Phil Ramone un peu en direct. Donc, j'ai pu voir un peu tout le travail qu'on ne voit pas, évidemment, qui a géré un réalisateur.
Ouais.
Donc, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Et puis aussi, je me rappelle, on mixait à deux quand il n'y avait pas de mixeur. Donc, j'étais à côté de lui. Je pouvais apprendre, comprendre, ressentir ce qu'il faisait. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris.
Il a d'ailleurs essayé de vous emmener avec lui aux États-Unis quand il est reparti, mais vous êtes resté.
Ouais, il aurait aimé que je le rejoigne à New York pour être son assistant de prod, justement. Donc, pour aussi bien gérer les arrangements d'un projet que de gérer un mixeur, que de l'accompagner dans toutes ses tâches. Mais j'avais déjà un bébé en route. Donc, ça m'a fait un peu peur de tout quitter, d'emmener tout le monde là-bas. Alors que je commençais juste en France et que J'avais une position où je voyais un peu de perspective.
Oui.
Et du coup, j'ai pas donné suite.
Vous n'avez jamais regretté ?
Ça m'arrive d'y penser et de me dire que j'aurais certainement une carrière différente, mais je peux pas me plaindre de ouais. celle que j'ai eue. Donc, je regrette pas.
Oui, vous avez eu une belle carrière. Vous avez une belle carrière, hein, et loin d'être finie. Vous êtes arrivée en 2025 avec un premier projet musical sous le nom de Drift, de 30 ans après avoir commencé à travailler en studio. Pourquoi ça a mis aussi longtemps ? Parce que je pense qu'on vous a souvent dit « Allez, vas-y, fais un album, fais un truc. »
Ben, en fait, c'est mon parcours qui a fait que ça a pris du temps. Au studio Guillaume Tell, je me suis retrouvé à faire... je faisais aussi bien l'album de Jean-Jacques Goldman que le dernier album de Sting ou que l'album de Prince ou que un harmoniciste de jazz hyper doué, hyper connu qui s'appelle Toots Thielemans.
Oh, qu'on connaît bien chez nous puisqu'il est belge.
Voilà. Donc j'ai tout de suite été confronté à un niveau artistique hyper élevé et j'avais conscience de ça. Apparemment, j'étais... doué ou en tout cas bon à un endroit
ouais.
et du coup par rapport à une crédibilité, par rapport à une légitimité que je devais acquérir pour pouvoir faire ce projet, ça m'a demandé beaucoup de temps. Vu que j'avais conscience de tout ça, je pouvais pas arriver avec quelque chose de juste un peu frais ou de nouveau. J'avais besoin que ça soit abouti, que ça soit conceptuel, que ça soit intellectuellement riche et du coup il a fallu que j'attende toutes ces années et que je participe à autant d'albums et que j'ai vraiment commencé assistant, puis ingénieur du son à enregistrer des trucs. Et puis après, j'ai commencé à mixer des albums très vite. Donc à partir de 22-23 ans, j'étais mixeur un peu officiel. Et c'est le fait que je puisse mixer des projets et les finir, du coup, les aboutir. C'est pour ça qu'on m'a proposé de devenir réalisateur, parce que pour être réalisateur de disques, on a deux options. Ou on est arrangeur, ou on est mixeur. Il n'y a pas d'autres cas de figure. Parce que c'est deux endroits où on peut aboutir un projet sans avoir besoin des autres. Donc si les gens autour de vous ne comprennent pas la vision que vous avez, au moins vous pouvez l'aboutir vous-même, en mixant ou en arrangeant. Donc je me suis retrouvé donc à être mixeur, un peu le mixeur officiel, et puis après le réalisateur officiel, tout en continuant à travailler avec des gens ultra installés et ultra brillants. Alors je vais reprendre le cas d'Alain Souchon, mais c'était Jane Birkin, c'était Claude Nougaro, c'était que des gens hyper établis. Et donc, la première fois qu'on m'a proposé ou qu'on m'a soumis l'idée que je fasse un album, c'était quand j'ai fait Clandestino avec Manu Chao, ce qui paraissait assez logique. Mais après, je me sentais pas légitime, justement. Je voulais pas faire l'erreur de vouloir tout faire, alors que je faisais quelque chose de bien et je voulais le préserver. Et je voulais pas que ça soit entaché par quelque chose qui aurait été... mal pris ou mal compris, ou moi...
C'est comme si, ce que vous dites presque, c'est comme s'il fallait qu'à ce moment-là, vous restiez à votre place, que ce n'était pas le bon moment pour aller ailleurs.
Tout à fait. Une fois que j'ai été réalisateur, ben, j'ai commencé à arranger pour les autres. Et puis après, j'ai commencé à jouer dans les albums des autres. Et là, m'a donné le poids pour pouvoir le faire. Et surtout, mes amis autour de moi ont commencé vraiment à me pousser, à me dire « Mais t'as des choses à dire et t'as des choses... » Tu as les capacités pour pouvoir le faire. Et c'est surtout Chili Gonzalez qui m'a poussé à un moment.
Avec qui vous avez beaucoup travaillé. Hein,
ouais, voilà. Ouais, pendant... avec qui je travaille toujours d'ailleurs. Et il m'a énormément poussé. Parce que le problème, quand vous faites un album pour les autres, c'est une position. Je ne dis pas qu'elle est plus facile, mais elle est différente. C'est pas... La matière originelle ne sort pas de vous. Vous arrivez sur une matière et vous la sublimez. C'est un travail, mais avoir la capacité de sortir une matière de vous-même, c'est un autre travail. Et du fait de ma carrière, je ne pouvais pas, encore une fois, arriver avec juste quelque chose de sympa. Ce n'était pas possible pour moi. Et donc, Chili Gonzalez m'a beaucoup aidé à faire. C'est comme si j'avais fait un parcours en 5 ans.
Ouais.
C'est comme si j'avais fait genre 15 ans d'apprentissage d'artiste pour que je puisse arriver directement à aboutir ce projet et que ça soit personnel surtout.
Oui, c'est ça.
J'avais peur de tomber dans le cliché d'album de producteur. Donc, ça aurait été un artiste, un morceau, que les morceaux n'aient pas forcément de cohérence entre eux. Donc là, j'ai fait attention que ça ne soit pas comme ça, qu'il y ait des morceaux instrumentaux, qu'il y ait beaucoup de musique qui soit écrite par moi. Donc, je pouvais imposer une direction. Les mélodies, même si des fois, il n'y a pas de paroles, ça évoque des choses. Mm-hmm. Donc, j'avais besoin d'aboutir tout ça, que je sois un peu légitime aussi auprès de mes amis qui sont des musiciens de jazz, qui puissent me dire « Ah ouais, ta mélodie, elle est vraiment stylée. Ah ouais, t'es vraiment bon. » J'avais besoin de tout ça, du réconfort des gens autour de moi pour pouvoir me lancer.
Pour oser.
Exactement.
Dites-nous juste peut-être en une phrase, parce que je pense qu'on va en reparler un peu plus en détail après, ce qu'on disait, différence entre un mixeur et un arrangeur, pour les gens qui ne connaissent pas et qui nous écoutent.
L'arrangeur, c'est celui qui va décider du tempo du morceau, de la direction, qui va diriger les musiciens, diriger le chanteur.
Choisir les instruments aussi parfois.
Choisir les instruments. C'est aussi le métier du réalisateur. C'est-à-dire que quand il y a un réalisateur et un arrangeur, c'est le réalisateur qui dirige l'arrangeur. Et donc, il travaille sur les notes, ouais, et sur l'harmonie, sur tout ça. Alors qu'un mixeur, on lui donne la matière arrangée et c'est à lui de la sublimer. Ça veut dire, c'est comme si un arrangeur, c'est celui qui écrivait la partition pour l'orchestre.
Ouais.
Et le mixeur, c'est le chef d'orchestre. Le mixeur, c'est celui qui va dire, OK, ça, il faut que ça soit moins fort. Là, ça va trop vite. Ça, ouais, c'est trop brillant. Ça, ça raconte pas les bonnes choses. Donc, c'est comme le chef d'orchestre qui dirige l'orchestre en contrôlant, mmh, les volumes, l'émotion, l'énergie. Et ben, en mixant, c'est ça que vous contrôlez.
Ouais.
Donc, on joue sur les volumes, mmh, et sur l'esthétisme. Si je peux comparer ça de chaque acteur, en fait.
Ouais.
C'est comme si il fallait prendre des instruments, comme si c'était des acteurs, et de sublimer leur jeu.
Renaud Létan est notre invité aujourd'hui dans Les Petits Papiers. Alors, on va parler de votre travail. Le principe de cette émission, c'est de le faire à travers des mots qui sont sur des papiers, que, mmh, je vais mettre devant vous.
Okay.
Vous allez en prendre un.
D'accord.
Et puis, vous allez nous dire ce que ce mot évoque pour vous. Et on va reparler de votre travail et de votre parcours.
Un décor. Donc, c'était pour réagir par rapport à mon métier,
ouais,
et ce mot.
Qu'est-ce qu'il évoque pour vous, ce mot décor ?
Deux choses. Ça me fait tout de suite penser justement au décor d'une chanson. Mm-hmm. Dans une chanson ou dans un morceau instrumental, si c'est bien écrit, ça dit quelque chose. Donc, on va choisir un décor, justement, à mettre derrière, pour, ouais, que ce qui veut être dit soit dit dans le bon sens et soit hyper bien compris.
Mm-hmm.
Ça veut dire, quand je travaille avec Philippe Catherine, par exemple, et qu'il dit une dinguerie et que c'est pas facile à l'écouter parce qu'il dit tellement une dinguerie que c'est dur, à moi de trouver le décor pour que ça soit bien compris, bien amené et que le sentiment qu'il veut dégager soit le bon. Donc je dirais que le décor fait autant partie que le personnage principal de la chanson,
mm-hmm,
parce que c'est ce qui va donner du relief, c'est ce qui va donner le bon sentiment pour que la chose soit comprise.
Quand vous parlez de votre métier, Renaud Létan, vous utilisez souvent le mot clarté aussi, pour dire il faut donner de la clarté aux choses quand,
ouais,
quand on fait un morceau.
Ouais, c'est le métier, ouais, du réalisateur et le métier du mixeur, justement, c'est de sublimer le sentiment pour que l'auditeur le ressente de la bonne manière.
Mais est-ce que pour faire ça, il faut pouvoir éprouver soi-même aussi un sentiment par rapport à la musique sur laquelle on travaille ?
Complètement. C'est un peu comme un métier d'acteur ou de performeur. Ça veut dire qu'il faut être en capacité de faire on sur, ouais, un bouton et de tout d'un coup être une espèce d'éponge à sentiments. Ça veut dire que notre boulot, c'est comme s'il fallait attraper les sentiments quand ils passent,
mm-hmm,
et les figer. Donc, pour pouvoir le faire, il faut le ressentir. Donc, c'est un travail sur soi, comme un acteur un peu, qui doit se transformer pour ressentir ce qu'il est en train de dire. Ben là, c'est exactement la même chose. Quand je travaille avec une femme de 35 ans, je ne sais pas, je deviens une femme de 35 ans.
Mm-hmm.
C'est mon métier, en fait. C'est d'être à sa place et d'être sûr que le sentiment qu'elle veut évoquer, il soit compris et ressenti. En fait, il n'y a pas de bonne musique ou de mauvaise musique. Chaque musique a un sentiment précis. Et les gens, ils viennent pas chercher un style de musique. Ils viennent chercher un sentiment précis par rapport à leur moment. Donc, quand ils vont courir le matin, ils vont chercher un sentiment. Ils vont pas chercher un style de musique, en fait.
Mmh.
Et c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, dans mon travail, c'est de comprendre le sentiment de chaque musique et de pouvoir le rendre hyper clair.
Ça veut dire que vous avez l'impression que si un réalisateur n'arrive pas justement à éprouver un sentiment, à se mettre en phase hein, ou en empathie avec ce qu'il est en train de faire, là peut-être c'est une mauvaise musique, ça donne une mauvaise musique pour
vous. Ça donne quelque chose de raté
ouais.
pour les gens qui aiment ce sentiment et qui aiment ce style de musique. Je vais prendre des cas un peu extrêmes, mais par exemple un adolescent de 14 ans qui va se mettre à écouter de la musique gothique, c'est parce qu'il veut entendre parler de suicide et de mort et de dépression et il a besoin de ça. C'est un besoin en fait.
Ouais.
Donc vous pouvez faire le meilleur morceau du monde, le meilleur mix de l'univers, si le sentiment n'est pas le bon par rapport au style de musique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui va être super dans un style de musique est détesté dans l'autre style de musique. Donc c'est vraiment des choses hyper marquées. Quand les gens écoutent du hard rock, c'est un certain sentiment qu'ils veulent avoir. Quand ils écoutent de la musique californienne, c'est complètement autre chose. C'est passionnant et un mixeur et un réalisateur ne peuvent pas sublimer un morceau si eux-mêmes n'ont pas compris et ressenti pour de vrai le sentiment du style de la musique qu'ils sont en train de faire. Ça paraît tellement logique.
Ouais, mais ça veut dire que votre métier aussi, c'est de switcher quand vous passez d'un genre de musique à un autre.
Oui.
Il faut être capable de changer aussi complètement sa manière de regarder.
Bah oui, presque sa personnalité. Il faut être capable de passer d'une chanson dépressive à être dans un club où c'est la fête et on n'a qu'une envie, c'est que ça soit la fête.
Mm-hmm.
Et ça, il faut pouvoir le vivre.
Ça veut dire aussi que vous êtes parfois confronté à des choses que vous n'arrivez pas à sentir et que ça vous fait refuser un projet ?
Oui, il y a des styles de musique que je ne vais pas faire parce que je ne comprends pas ou je ne saurais pas sublimer ce sentiment parce que je ne le ressens pas.
Ça peut être quoi comme style ?
En vrai, il n'y en a pas beaucoup. J'ai un peu de mal avec tout ce qui est musique celtique, par exemple. Le côté face à la mer, les orages, en haut de la falaise, j'ai un peu du mal à me mettre dedans. Je le comprends, mais je ne le ressens pas.
Et ça marche
voilà,
pas.
Voilà. Mais par exemple, je suis tout à fait capable de passer de la chanteuse Juliette, par exemple, qui fait vraiment de la chanson française à texte, et d'aller vers Peaches et de faire un truc électro-punk. Ça, par contre, tout ça, je le comprends. Mais à l'intérieur de ça, il y a quelques styles où j'ai un peu de mal à trouver. Mon premier critère quand j'écoute un projet qu'on me propose, c'est justement si je comprends le sentiment et si ce sentiment, je crois que je peux le rendre clair et qu'il sera en adéquation avec l'artiste et son style.
À propos de décor, pour revenir à votre projet Drift, vous dites qu'il a le décor sonore aussi de votre enfance et de vos souvenirs d'enfant.
Ouais.
Vous êtes né à Téhéran, vous avez vécu en Indonésie, au Venezuela, en France.
Ouais.
Donc, évidemment, vous avez grandi, je pense, les premières années de votre vie à Téhéran.
Ouais.
Donc, ça veut dire que le décor de votre enfance, ce sont des décors musicaux, des atmosphères différentes qui se sont rejointes pour ce projet.
Par rapport à mon enfance, c'est le climat général de l'album. Il n'y a rien en particulier. Ce n'est pas une mélodie ou quelque chose, c'est le climat général. Et c'est beaucoup le Pacifique. J'ai grandi donc beaucoup au soleil et beaucoup au bord de la mer. Et donc le Pacifique, pour moi, ça évoque énormément de choses. À chaque fois que j'y retourne, ça me fait un truc vraiment spécial. Ça me renvoie à une énergie particulière, à un rythme de vie particulier. Tout l'album est dans une atmosphère comme ça, chaude, humide, lente des fois. C'est plus ça. Après, le fait d'avoir voyagé comme ça, c'est sûr que par rapport aux sentiments dont on parle, ça m'a beaucoup aidé à avoir une palette très large finalement. Je suis capable de faire de la musique du Moyen-Orient. La musique latine pour moi, c'est pas exotique. D'où Manu Chao, j'aurais jamais pu travailler avec lui et de cette manière si j'avais pas la culture pour de vrai.
On ne l'a pas dit, mais vous avez fait Clandestino de Manu Chao à deux, quasiment. Vous avez tout fait à deux sur cet album, tous les instruments, tout. Vous avez,
Et Proxima et Station aussi, l'album d'après.
Je vous propose de prendre un autre mot.
Prolongement. Ça me fait penser juste à ma carrière, en fait. J'ai pas l'impression d'être un génie, j'ai pas l'impression d'avoir tout trouvé tout seul. C'est tout l'inverse, en fait. Et j'ai eu la chance de travailler avec des gens hyper talentueux qui, eux, ont travaillé avec des gens hyper talentueux quand j'étais jeune. Et je suis juste dans le prolongement d'un savoir-faire. Et je sais que c'est rare, mais surtout aujourd'hui, vu qu'il y a de moins en moins de studios, que les jeunes apprennent ce métier dans une école et que les écoles n'ont pas la méthode et n'ont pas encore, scolairement parlant, c'est absolument pas abouti pour l'instant.
Il n'y a pas l'expérience, en fait.
C'est lié au fait que c'est un métier qui est très jeune, en fait. C'est un métier qui a 70 ans, 80 ans, on va dire. Donc, comparé à la musique ou au dessin ou à toutes ces choses-là, je sais pas, la musique, ça a peut-être 10 000 ans, j'en sais rien, je dis un peu n'importe quoi, mais le dessin, pareil, les hommes préhistoriques, ils savaient déjà faire de la perspective dans les grottes. Comment on apprend à quelqu'un à dessiner ? Tout le monde s'est mis d'accord. Comment on apprend à quelqu'un à faire de la musique ? Tout le monde s'est mis d'accord. On apprend toujours de la même manière à quelqu'un de faire de la musique. Alors après, ce qui va changer, c'est la position de la main sur le piano, est-ce qu'on laisse un peu plus de liberté à l'étudiant et tout ça, mais on va toujours commencer par la clé de sol, puis après on ajoute la clé de fa, et puis machin, et puis bidule, parce qu'il faut boulonner la personne d'une certaine manière pour arriver à un résultat. Et le problème, c'est que ce métier-là, les personnes qui auraient dû prendre le temps de travailler sur comment enseigner ces méthodes, personne ne l'a pris encore, parce que c'est que des gens qui étaient dans le travail.
Vous n'avez pas fait d'école, je pense.
Non, je n'ai pas fait d'école parce qu'il n'y en avait pas à l'époque, tout bêtement, en fait. Et c'est un métier qui pourrait, je pense, être appris dans une école, mais il faudrait penser à un vrai programme.
Et ça vous...
Genre, par exemple, ce n'est pas normal que dans chaque école, il y ait un programme différent. C'est que ça ne va pas.
Vous parlez des écoles d'ingénieurs du son. Là.
Voilà, ouais.
Parce que c'est essentiellement des ingénieurs du son qu'on forme des réalisateurs. Effectivement, je ne sais pas s'il y a des formations.
Bizarrement, il y a des classes avec option réalisateur, ce qui n'a aucun sens, parce que le métier de réalisateur... vous pouvez l'obtenir après avoir été excellent dans les deux activités dont je vous ai parlé, mixeur ou arrangeur. Alors je vais vous prendre deux exemples. Quincy Jones, arrangeur. Phil Ramone, ingénieur du son. Voilà. Mais il n'y a pas de cas de bons musiciens qui sont devenus réalisateurs. Ça ne suffit pas d'être bon musicien. Il faut pouvoir agir sur le tout. C'est comme un réalisateur de film. En fait, c'est la meilleure comparaison. Un réalisateur de film, il n'est pas que réalisateur. Jamais. Il est ou scénariste, ou cadreur, ou monteur. Mais à un endroit, il va pouvoir agir. Et si on ne comprend pas ce qu'il veut, il va pouvoir dire, les gars, c'est là. Donc si c'est un scénariste, sur le moment de la scène, il va changer son texte pour que ça aille où il veut. Si c'est un monteur, il va se débrouiller pour raconter l'histoire qu'il veut en montant. Mais à un moment, on propose à personne d'être que réalisateur. On dit, lui, il peut réaliser un album, réaliser un film, parce qu'il est très bon là, ou très bon là, ou très bon là.
Est-ce que vous, Renaud, ça vous a tenté d'enseigner ? Est-ce que vous l'avez fait ? Est-ce que vous le faites parfois ?
Je le fais tous les jours, en fait, parce que j'ai, au Studio Ferber, on a des stagiaires, justement. Je prends beaucoup de stagiaires. J'en prends 4 par mois, toute l'année. Certains reviennent. Je leur transmets tout ce que je peux leur transmettre. J'essaye de sortir du débat technique, parce que ce qu'on leur apprend dans les écoles, c'est beaucoup de technique. Et la technique, ça n'a rien à voir avec notre travail, en fait.
Oui, c'est ce que la vous expliquiez avant, voilà, il faut de l'émotion.
La technique, ça, c'est des outils qui permettent d'arriver à un endroit. Mais ce n'est pas la technique qui vous permet d'être bon. On pourrait comparer ça à quelqu'un qui conduit, par exemple. Ce n'est pas parce que vous savez changer le pneu, ouvrir la porte et fermer le coffre que vous êtes un bon conducteur. Être un bon conducteur, c'est regarder dehors et réagir de la bonne façon par rapport à ce qui se passe dehors.
En maîtrisant tout le reste en plus.
Exactement. Donc, comment démarrer la voiture, on s'en fiche un peu. C'est un peu la base. La technique pour un ingénieur du son, c'est pareil. C'est juste la base, mais il faut aller ailleurs. Ou un charpentier, s'il n'a pas ses bons outils, mais qu'il est bon charpentier, il fera une bonne charpente. C'est pas grave, s'il n'a pas le bon marteau, il va prendre une pierre, il va taper sur le clou, et puis ça sera bien fait. Alors que vous pouvez avoir tous les beaux marteaux de la terre, tous les beaux clous et tous les beaux schémas, si vous ne savez pas le faire, même avec des bons outils, vous irez nulle part. Donc, il faut avoir une vision, il faut avoir un but, et c'est les outils qui vous permettent d'atteindre le but.
Renaud Létang, puisque vous avez évoqué le studio Ferber, qui est votre studio aujourd'hui, vous avez commencé là-bas au début des années 90 à travailler dans le studio Ferber, et depuis 2014, vous en êtes le propriétaire. Je vous avais mis ce mot prolongement parce que j'ai lu quelque part que vous disiez que c'était le prolongement de votre main, ce studio.
Ça l'est devenu, ouais. C'est vrai, j'ai choisi cet endroit, je crois qu'à partir de 95 ou 96, j'ai essayé de terminer tous les projets auxquels j'ai pu participer, de le terminer dans cet endroit, parce que pour développer un son et pour développer le métier de mixeur, c'est hyper important d'être dans le même environnement. Comme ça, vous progressez et vous n'êtes pas toujours en train de comprendre comment fonctionne l'endroit, comment sonne l'endroit, pour pouvoir interagir. Donc, j'ai très vite choisi cet endroit. La première raison, c'est que c'est un endroit incroyable, que la pièce sonne hyper bien. Donc, ce qui était évidemment une chose essentielle pour moi. J'adorais l'ambiance. Et si on pourrait parler de prolongement, c'est vrai que là, j'ai parlé du prolongement, que je me sentais juste d'être dans la continuité d'un savoir-faire que d'autres personnes m'ont transmis, en fait. Mais il y en a deux autres, des prolongements, si c'est vrai. Il y a le prolongement où j'ai tellement passé de temps dans cet endroit que je ne le vois plus, l'endroit.
Il fait partie de vous ?
Il fait partie de moi et du coup, ça rejoint le sentiment, ça rejoint tout ça. Je peux m'imaginer être n'importe où dans cet endroit. J'éteins les lumières un peu et je fais on-off et je me retrouve sur une plage, je me retrouve dans un club, quelle que soit l'heure de la journée. C'est en ça où c'est le prolongement de moi, c'est que je ne vois plus l'endroit, je ne vois plus les outils, je vois juste là où je veux aller. Et puis mes mains, elles font ce qu'elles ont à faire.
Oui, Philippe Catherine dit que vous avez un rapport charnel à ce studio.
Ouais, il a certainement raison. Il a plus de recul que moi. Il a plus de recul que moi sur ce sujet, quoi. Et l'autre prolongement dont je me sens aussi très proche, c'est que j'ai repris le studio en 2014, comme vous avez précisé. Et je l'ai repris parce que René Hamelin, qui a créé le studio, m'a demandé de le faire. Il m'a demandé de reprendre le studio et de continuer l'histoire du studio. Et donc, il m'a transmis, pour le coup, une mission.
Oui, Studio Ferber, c'est un studio mythique quand même.
Donc je me sens aussi dans le prolongement de René Hamelin.
Oui. Vous avez hésité donc, quand il vous l'a proposé ou ça a été tout de suite évident?
Je dois avouer qu'à la base, ce n'était pas un but dans ma vie d'avoir un studio, sinon je l'aurais fait avant. Mais je me sentais trop concerné, trop proche de René, pour pouvoir même imaginer refuser.
Vous aimez ce podcast ? Et si vous le partagiez avec vos amis, par exemple, plus on est écouté et plus on peut vous proposer de nouvelles rencontres intéressantes. Donc n'hésitez pas à nous faire connaître, on a besoin de vous. Et si vous avez envie de nous laisser vos impressions, on a une adresse mail, lespetitspapiers@rtbf.be. Moi, je serais ravie de vous lire en tout cas et d'échanger avec vous. Mais pour l'heure, un autre petit papier, bien sûr.
Piano. Si je pense à la première chose à laquelle je pense pour le piano, c'est mon père. Et c'est peut-être la première personne qui m'a transmis tout ça. La culture de la musique, l'amour de la musique, la joie qu'il y a autour, l'amusement, le groove, la danse.
Ouais.
Mon père était pianiste de jazz à un très haut niveau.
Mais c'était pas son métier. Hein.
Il vient d'une époque où c'était pas un métier d'être pianiste.
Il était ingénieur ferroviaire, donc, votre père, c'est ça ?
Il était ingénieur en électricité et il travaillait chez Alstom. Mm-hmm. Donc en gros, il suivait des projets...
ferroviaires, c'est ça, Alstom ?
Ouais, c'était des centrales hydrauliques. Il y avait un peu tout ce que faisait Alstom.
Ce qui a expliqué que vous avez voyagé dans le monde entier et grandi à différents endroits.
Et ce qui est marrant, c'est que lui, il a voulu partir très jeune. Donc il a demandé à pouvoir s'expatrier. Et comme il était très jeune, on lui donnait tous les pays où personne ne voulait aller, évidemment. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés dans ces pays. Et c'était super, justement, parce que... surtout à l'époque, c'était des pays extrêmes qui, culturellement, étaient très riches.
Iran, donc, Venezuela, Indonésie.
Dans un autre sens, Iran, Indonésie, Venezuela. Oui. Et donc, le piano, c'est toute mon enfance. C'est plusieurs heures par jour, tous les jours. Tous les soirs.
Ça veut dire qu'en rentrant du travail, votre père, il se mettait au piano et
il jouait standards de jazz. Donc, à 7 ans, je connaissais un peu tous les standards de jazz de mémoire. Quoi. Donc, et beaucoup, 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 tous les jours. Ça a été énorme. Et donc, j'ai retrouvé ça avec Chilly Gonzalez, ce qui est un peu...
C'est peut-être ça qui vous a lié, parce que vous avez beaucoup travaillé ensemble sur, c'est sûr que sur moi, sa musique, c'est... mais sur d'autres projets aussi.
C'est sûr que pour moi, le piano, ça a une saveur un peu particulière liée à ça.
Vous avez dit que c'était pas... On a dit que c'était pas le métier de votre père, mais est-ce qu'il aurait aimé que ce soit son métier? Vous dites à l'époque que c'était pas un métier.
Il est né en 36, donc dans les années 40, faire du jazz, c'était faire... du rap il y a 20 ans ou du rock il y a 40 ans. Enfin, c'était de la musique subversive, en fait.
Mm-hmm. Il aurait aimé, vous pensez?
Ah oui, c'est pas qu'il aurait aimé, c'est qu'il l'a... En fait, il l'a fait pour payer ses études à Paris. Et il jouait à la Coupole. Mm-hmm. Et donc, il était musicien, en fait. Il a fait des disques. Mais c'est juste qu'il s'est jamais permis de se dire qu'il pouvait en faire un métier. Parce qu'à l'époque, c'était impensable, en fait.
Ouais.
Enfin, déjà qu'aujourd'hui, c'est pas évident qu'on vous traite de saltimbanque. À l'époque, c'était carrément... Mm-hmm. C'était le pire truc à faire. Donc, quand je lui ai dit que je voulais faire ça, que j'allais pas rentrer dans une école d'ingénieur et tout ça, il a été super parce qu'il s'est dit, ok, moi on m'a pas laissé le faire, il a l'air hyper motivé, je vais pas lui interdire ce que moi, il a super bien réagi et puis il m'a fait confiance et
il a été fier.
Ouais. Ça c'est sûr. Ben pour lui, il était encore vivant quand j'ai travaillé avec Claude Nougaro, des gens comme ça, donc pour lui évidemment c'était comme une consécration, quoi. Et l'album, c'est pour ça que ça parle de ma jeunesse aussi, c'est que c'est beaucoup en rapport avec...
Ça parle de deuil.
Ça parle beaucoup de lui, en vrai. Même tous les morceaux naïfs de jazz et tout ça, c'est beaucoup en rapport avec lui.
Ouais. Donc vous grandissez dans cet environnement où vous voyez votre père jouer du piano plusieurs heures par jour, vous entendez du jazz, vous connaissez, vous apprenez. Je pense que vous allez tenter le piano, mais que le modèle est trop, donc vous allez finalement bifurquer vers les percussions et la guitare. Mais à quel moment est-ce que vous vous dites, Renaud Létang, moi j'ai envie que ce soit mon métier?
J'étais complètement matrixé, c'est-à-dire que j'écoutais je sais pas combien d'heures de musique par jour, je m'endormais avec mon Walkman en auto-reverse, ma mère était obligée de venir me réveiller la nuit pour me l'enlever, enfin, même à 18 ans, j'ai des souvenirs, la première fois que j'ai vécu seul, je pouvais m'endormir avec un CD en repeat, donc je dormais avec de la musique, enfin, c'était obsessionnel.
On dormait encore avec de la musique aujourd'hui?
Non.
Non.
J'en écoute, là pour le coup, j'en écoute 12 heures par jour, donc à un moment, ça serait malsain, ça serait un peu malsain, mais j'ai su très jeune que j'étais attiré par ça. À 10 ans, j'allais tout seul chez les disquaires choisir mes disques, je m'enfermais dans ma chambre, je mettais des spots et je voyageais, en fait.
Et vous aviez envie de faire quoi à ce moment-là, à 10 ans, quand vous écoutiez de la musique? Parce qu'à 10 ans, je pense que ingénieur du son, réalisateur, c'est quelque chose qui doit être un peu abstrait, on ne sait pas encore très bien ce que c'est.
J'avais conscience qu'il y avait des gens derrière qui faisaient des trucs. Ouais. Et je savais qu'il y avait un endroit de moi, j'avais pas envie d'être devant. Et donc, ça m'a naturellement amené là, parce que le réalisateur, c'est celui qui a la responsabilité du projet. Donc, il a un rôle hyper important, mais il n'est pas devant. Et donc, c'était un endroit qui m'allait parfaitement.
Et comment ça se passe alors? Vous arrivez à Paris, vous arrivez en stage au studio Guillaume Tell? Comment ça se passe, cette arrivée dans ce milieu-là?
Juste après l'année du bac, je fais un premier stage dans un studio qui s'appelait le studio Damien, qui était un studio à Boulogne-Billancourt, qui était le studio de Daniel Balavoine. Et j'ai ce plan parce que une copine à moi, le père est arrangeur, et qu'il me trouve... ce petit stage de quelques mois. J'ai rencontré 2-3 ingénieurs du son, dont un qui m'a dit « Oh, t'as l'air motivé, toi. Il faut que t'ailles dans un super studio, il faut pas que tu restes là. Je vais appeler quelqu'un que je connais bien. » Et il a appelé Roland Guillotel, le patron du studio Guillaume Tell, pour que je fasse un deuxième stage. Et après, je me suis retrouvé stagiaire au studio. Et puis, à la fin de mon stage, il fallait que je sois pris. Et puis, j'ai eu la chance d'être pris. Mais encore une fois, c'est de la chance.
Oui, j'allais dire.
J'étais jeune, donc je veux dire, j'étais jeune, je ne savais pas grand-chose. Mais je pense que c'est ma motivation et le fait que j'étais très mûr, lié à tous ces voyages et à toute cette vie où il avait fallu que je m'adapte à plein de cultures, à plein de langues, à plein de codes différents. Donc, j'imagine que j'étais mûr pour l'âge que j'avais. Et j'étais surtout ultra motivé, quoi.
Oui, et puis vous arrivez avec une culture musicale importante quand même,
mais
aussi, ça aide.
Oui, mais ça, je ne pouvais pas le dire tout de suite.
Non, ça ne se voit pas au premier abord.
Voilà, c'est ça.
Et un petit coup de chance qui vous met vous fait tomber sur la bonne personne qui remarque.
J'ai eu que ça de la chance. Mmh. Diplomatie, c'est marrant, c'est un bon mot parce qu'il fait partie de ma vie quotidienne.
Oui.
La diplomatie, bon, c'est un terme très français. Toutes les cultures n'ont pas cette notion de la diplomatie. J'imagine qu'on l'a quand même beaucoup ici. Mais c'est vrai que un artiste, c'est quelqu'un de vulnérable. C'est quelqu'un souvent qui est un peu écorché vif à des endroits. La diplomatie, c'est ultra important pour arriver à mettre l'artiste dans la meilleure position pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. C'est une diplomatie qui doit être adaptive parce qu'elle va être différente avec chacun. C'est un travail de psy au départ.
J'ai hésité avec et psychologie d'ailleurs.
C'est un travail de psy et d'aller très vite pour comprendre l'autre et savoir quelle diplomatie il va falloir adapter et choisir pour pouvoir arriver à ses fins. Moi, mon seul but, c'est de faire un bon album et que l'artiste soit content et que ça lui corresponde.
Oui, c'est ça, parce que ça reste lui, finalement, le porteur du projet. Donc, vous devez aussi vous adapter à ça.
Je dois le comprendre plus que lui et comprendre plus que lui qui il est et de faire le meilleur décor possible ou le meilleur costard pour que lui se sente super à l'aise et que pour les autres, ça soit ultra cohérent.
Ouais.
Et donc, il y a des gens, par exemple, Philippe Catherine, je peux lui parler. Bon, c'est aussi le fait qu'on se connaisse très bien, ou Chili Gonzalez. Je peux leur dire les choses très cash. Je peux leur dire, ah non, vas-y, c'est pas bien aujourd'hui, ta voix, elle est pourrie.
Ouais.
On verra demain. Il fait, ah ok. Il n'y a aucune incidence à ce que je vais dire. Et c'est mieux que je leur parle directement, comme ça on ne perd pas de temps. Et les choses sont tout à fait comprises. Et ils me demandent, c'est mon rôle d'être comme ça. Donc, ils comprennent qu'ils me choisissent. Et donc, mon rôle, c'est d'être comme ça. Donc, ça ne leur pose pas de problème et ils sont contents. Il y en a d'autres où il y a une confiance en soi qui n'est pas toujours très stable, où c'est des gens que je ne connais pas encore bien, ou tout ça. Donc, il va falloir que je prenne plein de chemins de traverse pour arriver à leur faire comprendre des choses pour qu'ils ne se sentent pas jugés, en fait.
Oui, c'est
Mon
ça.
Boulot, c'est d'arriver à dire tout ce que j'ai à dire sans que l'artiste se sente jugé.
S'il ne se sent pas jugé, il peut entendre plus facilement.
Ah bah, complètement. Ouais. C'est le but. C'est dans les premières semaines d'une collaboration avec un artiste, mon premier travail, c'est qu'il comprenne que je ne le juge pas et qu'il me paye pour que je pallie à tout ce qu'il y a à pallier. Et donc, en aucun cas, il y a du cynisme ou en aucun cas, il y a un jugement.
Mais c'est un travail aussi de ne pas juger.
Bien sûr.
Il faut prendre aussi sur soi.
C'est de la sincérité. Ouais. Et il faut que l'autre voit que c'est de la sincérité. Ce qui me dérange un tout petit peu avec la diplomatie, c'est que ça peut être un peu calculateur, alors que moi, je ne dois pas l'être. À aucun moment je dois l'être. Si je le suis, c'est avec une sincérité.
Ouais, vous auriez préféré psychologie comme mot, peut-être ?
Non, il est très bien ce mot-là, mais c'est de la diplomatie sans calcul. Ou s'il y a calcul, c'est pour la personne. C'est vraiment donner avec générosité à un endroit. C'est la seule manière pour que l'artiste accepte ce qu'il a à entendre. Si y a des artistes, par exemple, qui ont des problèmes avec leurs paroles, je ne vais pas, dès le premier rendez-vous, dire « Oh là là, les paroles du 8e morceau, ça ne va pas du tout. » Non, je vais dire « Globalement, les paroles, elles sont super. Je ne comprends pas pourquoi t'as des problèmes avec ça. » Et puis, j'attendrai peut-être 15 jours pour dire « Au fait, le numéro 8, peut-être que celui-là, tu pourrais le travailler.
Ouais. »
Mais comme il y a eu tout ce parcours, toute cette discussion avant, tout ce machin, il le prend bien. Mais c'est là où il y a de la diplomatie. C'est choisir le moment pour dire les choses.
Ouais.
Avec Alain Souchon, par exemple, les choses ne sont jamais vraiment dites de manière très claire. Tout est par des phrases. Et pareil, ce n'est pas un jugement, c'est sa manière d'être. Et je dois le comprendre, je dois l'admettre et je dois user du même système pour que les choses se passent bien.
Ouais.
Donc, c'est vraiment de l'adaptabilité psychologique qui doit être faite pour chaque cas. C'est chaque cas est isolé et c'est une situation particulière.
Renaud, vous dites que souvent, il arrive que les artistes aient envie d'être l'inverse de ce qu'ils sont.
Ouais.
Et que ça aussi, ça fait sans doute partie du travail. Il ne faut pas toujours les écouter.
Ça fait partie, une fois, de la diplomatie, de la psychologie, tout ça.
Ça veut dire quoi d'abord
C'est
quand
très
vous dites
simple,
que
en fait.
Les artistes ont envie d'être autre chose que ce qu'ils sont.
Alain Souchon, il rêve d'être Iggy Pop et de pouvoir arriver sur une scène et d'hurler. Et Iggy Pop, il rêve d'être Brian Ferry et de pouvoir être un crooner séduisant au fond d'eux. On veut toujours ce qu'on n'est pas. Quand on est blond, on veut être brun. Quand on a les yeux bleus, on veut les yeux marrons. Quand on est petit, on veut être grand. Quand on est grand, on veut être petit.
Ouais.
C'est le lot de tout le monde. Sauf que là, il faut que je lutte contre ça parce que ce qu'aiment les gens chez les artistes, c'est souvent ce qu'eux n'aiment pas. Manu Chao, il a une voix très particulière, mais c'est ça qu'aiment les gens. Et lui, si je lui laisse équaliser sa voix ou s'il le fait tout seul, il va enlever ce sentiment.
Ah ouais.
Parce que lui...
Il va enlever sa particularité.
C'est exactement. Parce que c'est ce qui le gêne, c'est ce qui fait sa particularité. Et on n'aime pas avoir quelque chose de particulier. On ne sait pas si c'est positif ou négatif.
Ouais.
Sting, on l'adore parce qu'il a une voix bizarre, en fait. S'il changeait sa voix, ce ne serait plus la même personne. Par exemple, Jean-Louis Aubert, si tout d'un coup, il se mettait à chanter impeccable, super juste, et tout ce qu'on aime, c'est que ça soit un peu genre, extrême et un peu sincère.
Ouais.
Et que ça soit... Si on commence à sentir la moindre...
technique
ouais, ou le
derrière.
Moindre truc pas sincère, par exemple, dans le cadre de Jean-Louis Aubert, on perd le sentiment que les gens apprécient chez lui. Et donc, c'est à moi d'être le gardien de ça, en fait.
Ouais. Mais ça ne doit pas être toujours simple de ramener un artiste à ce qu'il est. Alors,
c'est pas un métier simple.
Ouais, s'il veut faire autre chose.
C'est pas un métier simple du tout, mais c'est de l'argumentaire, de l'accompagnement.
Rassurer aussi.
Oui, et de leur faire aussi comprendre l'endroit où ils sont bons, en fait.
Ouais.
Et c'est toujours l'endroit où on est bon qu'on va mettre de côté, bizarrement. Et c'est ça que je ne voulais pas faire avec moi. Quand j'ai décidé de faire un album, c'était de me dire « Ouais, je vais faire un album, ça va être super. » Non, reste tranquille, fais déjà bien ton travail, t'as l'air bon à ça, et essaye pas de révolutionner quoi que ce soit, et attends que ce soit le moment. Ben là, c'est un peu pareil, c'est « Va pas remettre en question là où les gens t'apprécient, en fait. »
Ben, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, être au centre, c'était pas ce que vous aviez envie quand vous étiez jeune. Là, avec cet album, avec ce projet Drift, vous n'êtes pas tout seul au centre, hein, parce qu'il y a pas mal de gens avec vous sur l'album, où il y a pas mal d'invités, mais vous êtes quand même au centre, alors ça
oui,
vous
mais
fait
c'est
quoi
C'est complètement différent, en fait. Vous voyez, là, on parle de mon album, mais on parle d'une carrière.
Mm-hmm.
Et donc, c'est l'aboutissement d'une carrière. Donc là, je peux en parler, parce que c'est concret. J'essaye pas de vendre un truc. Je parle d'un truc que j'ai fait. J'ai pas à me travestir.
Ouais.
J'ai pas à faire penser que... C'est pas que envers la musique que je suis comme ça. C'est une histoire de caractère. Tous les réalisateurs de Dix comme moi, c'est des gens qui aiment pas être le centre de la journée de leur anniversaire. Ça va jusque-là. Mmh. C'est pas que pour la musique, c'est pour un tout, en fait. Et donc là, j'ai pas l'impression de faker un truc. J'ai pas l'impression de...
Il y a la légitimité du parcours.
Tout à fait, mais c'est pour ça aussi que je crois que j'ai eu besoin d'attendre tout ce temps-là pour pouvoir faire ce que j'ai fait, parce que maintenant, je me sens légitime.
Ouais.
Et du coup, ça déporte le problème et j'ai plus de problème à être le centre, à être le centre du projet.
Alors, j'imagine que tout au long de votre parcours, on vous a complimenté sur votre travail pour d'autres. Qu'est-ce que ça vous fait quand on vous complimente aujourd'hui sur votre travail à vous, sur votre album ? Ça fait plaisir, j'imagine, dans un premier temps, mais c'est un autre rapport aussi quand on vous dit.
C'est marrant parce que ça fait 30 ans que je suis à une certaine position dans mon métier, donc c'est plus d'avoir réussi un projet où les gens avec qui je travaille ont accepté de le faire avec moi. Ça me touche beaucoup parce que je sais que c'est pas humainement qu'ils ont accepté. Ils ont accepté parce que artistiquement, ils ont trouvé ça chouette.
Ouais.
Et donc, c'est à cet endroit-là où, pour moi, c'était le plus important, c'est que les gens que je respecte aient apprécié ce que j'ai fait, en fait. C'est un peu bizarre. Je suis comme un jeune artiste, mais avec toute cette carrière. Donc, forcément, je prends pas les choses de la même manière. Même aujourd'hui, faire des interviews, j'en fais depuis que j'ai 25 ans des interviews. Donc, j'ai un rapport qui est différent. C'est pas comme si j'arrivais et j'étais tout frais, tout jeune. Et donc, c'est beaucoup de bonheur que ça a été pris dans le bon sens. Voilà. Mmh. Et que ça a été pris pour quelque chose de stylé musicalement. Ça m'a beaucoup touché.
C'est une reconnaissance de ce que vous êtes à un autre endroit aussi, hein, que votre travail de réalisateur.
Ouais, ouais. Ça complète un peu le
tableau.
Exactement.
Ouais.
Exactement.
Mmh. Merci Renaud Létan d'être venu dans Les Petits Papiers.
Merci à vous. Merci, au revoir.
Merci d'avoir été à l'écoute des Petits Papiers. Ben, on compte sur vos partages, vos commentaires, vos étoiles pour nous faire connaître. Et puis à très bientôt pour de nouveaux mots et une nouvelle rencontre.